Réplique, peut-on être nietzschéen avec Céline Denat et Dorian Astor. De Montaigne, Nietzsche disait qu'un tel homme est écrit en vérité, on a plus de plaisir à vivre sur la terre. Peut-on étendre cet éloge à Nietzsche lui-même? Certains philosophes semblent le penser, notamment Dorian Astor, qui coordonne avec Alain Junion un livre intitulé « Pourquoi nous sommes nietzschéens ?» en réponse à l'ouvrage déjà ancien où Vincent Descombes, Luc Ferry, Robert Legros, Alain Boyer, Philippe Reynaud, Alain Renaud, André Comte-Sponville et Pierre-André Taguieff expliquaient pourquoi ils ne l'étaient pas. Dorian Astor a dirigé aussi un dictionnaire Nietzsche auquel a collaboré Céline Denat qui publie par ailleurs Nietzsche, généalogie d'une pensée. Cette fière proclamation de nietzschéisme pourtant ne va pas de soi. L'attrait qu'exerce Nietzsche tient essentiellement à sa critique incandescente de la métaphysique qui fuit la vie et le sensible au profit d'une vie prétendument située au-delà de la vie. La fantasmagorie d'une vie autre, écrit-il, nous sert à nous venger de la vie. Mais le même Nietzsche écrit « Vivre ». C'est essentiellement dépouiller, blesser, dominer ce qui est étranger et plus faible, l'opprimer, lui imposer durement sa propre forme, l'englober et au moins l'exploiter. Ou ceci encore, dans la généalogie de la morale, la vie procède essentiellement, c'est-à-dire dans ses fonctions élémentaires, par infraction, violation, exploitation, destruction, et elle ne peut être pensée sans cela. D'où ma question, Dorian Astor, comment peut-on être nietzschéen?
Oui, avec une telle introduction, évidemment, vous nous placez directement au cœur du problème. Sur cette question de la vie, il faudra bien sûr y revenir. Je voudrais rebondir sur cette question, cet adjectif de nietzschéen et ce terme de nietzschéisme. Il me semble qu'en philosophie, contrairement à la politique, par exemple, ou à l'idéologie de manière générale, un article conforme à partir d'un nom propre ne veut pas dire qu'on se soumet à un programme, parce que les philosophes n'ont pas de programme. En revanche, que on a été sensible, et c'est là qu'on revient à cette phrase de Nietzsche sur Montaigne, on a plus de plaisir à vivre, on a peut-être aussi plus de difficultés, on ouvre un certain nombre de problèmes. Il me semble que ce que dit l'adjectif nietzschéen, c'est la volonté de reprendre sur soi et de poursuivre à sa manière, avec ses forces, un type de questionnement et généralement des questions de méthode. Il me semble que être nietzschéen, c'est d'abord une certaine manière de poser des questions de type philosophique. Pour répondre rapidement à cette question de la vie, hein, ce qu'on a appelé souvent un vitalisme, qui serait vraiment à nuancer, quelle que soit, il est vrai, la violence des phrases que vous avez citées, qu'on pourrait aussi nuancer lorsqu'on voit que Nietzsche appelle aussi violence, violation, croiser un regard inconnu dans la rue. S'il y a déjà une infraction dans la sphère propre, dit-il. Donc la question est déjà celle aussi de l'intersubjectivité. Si vous lisez Canguilhem, par exemple, vous voyez que il parle des amibes, des cellules dans des formes de prédation. Vous avez ça chez Whitehead, la préhension, chez Simondon. Donc c'est lié. Ces questions-là sont liées, exprimées de manière particulièrement hyperbolique chez Nietzsche, mais sont liés toujours au problème de l'individuation. Quelle que soit la violence de ces phrases-là sur la vie, la question qu'il faut se poser, c'est faisons l'essai, comme disait Nietzsche, faisons l'essai d'être nietzschéen et de voir quel type de questions, quel type de regard critique sur les choses qu'on investigue oblige, enfin c'est ce rapport-là à la vie nous oblige-t-il?
Céline Denat.
Oui, je vais un peu dans la lignée de Dorian, peut-être répondre en en deux temps. C'est vrai qu'à mon sens, la fameuse question, est-ce qu'on peut être nietzschéen, l'usage de cet adjectif, ça mérite peut-être un ou deux éclaircissements, parce que l'idée qu'être nietzschéen, ce serait être d'accord avec une série déterminée d'affirmations de Nietzsche, éventuellement en plus d'affirmations coupées de leur contexte. C'est quelque chose qui serait difficile à soutenir tel quel, puisque, alors, pour reprendre la fameuse formule de Walter Kaufmann, il y a en un sens une incohérence à se dire nietzschéen lorsqu'on s'intéresse à Nietzsche. Pour être nietzschéen, disait Kaufmann, il ne faut pas être nietzschéen. Et ce pour une simple raison qui est, enfin au moins pour cette raison, qui est que Nietzsche exige de ses lecteurs, du philosophe en général, qu'il n'admette pas comme des dogmes ce que quelqu'un dit, y compris lui-même. Et il exige que ceux qui l'écoutent, qui tentent de le comprendre, ne cherche pas seulement à l'imiter, mais aussi, dit-il explicitement, à le dépasser, le surpasser, le trahir, le contredire. Je ne cherche rien tant qu'à être moi-même imité et dépassé, hein, écrit-il à l'époque des considérations inactuelles. Donc de fait, est-ce que se dire nietzschéen pourrait signifier qu'on accorde tout simplement ce que Nietzsche dit de terrible ou de moins terrible d'ailleurs, ça me semble effectivement assez problématique. Quant à la question effectivement de ces affirmations de fait brutales, choquantes de Nietzsche, je serai la première à le reconnaître, il me semble qu'il faut faire deux remarques. La première, c'est que Nietzsche enjoint son lecteur de se défier justement d'une lecture qui se concentre simplement sur certains aspects de son texte. Il recommande au lecteur de toujours lire la totalité de son œuvre, et il est vrai que les éléments qui peuvent paraître brutaux lorsque on les prend isolément peuvent être parfois compris de façon un peu plus nuancée à les retranscrire dans cette totalité de l'œuvre. En l'occurrence, sur cette idée que la vie est essentiellement violence, appropriation, ça signifie entre autres, pas uniquement, je vous l'accorde, mais ça signifie entre autres qu'en tant qu'être vivant qui a un certain rapport au monde, pour faire simple, à la réalité. Dans l'acte même, par exemple, de penser ce monde, il y a toujours un acte de déformation, parce que d'assimilation, pour le comprendre, pour pouvoir le penser, et l'appropriation, la brutalité de la vie, implique aussi cela, de même que quand je me nourris pour vivre, je détruis ce que je mange, en fait. Donc ça vise aussi, pas uniquement certes, mais ça vise aussi, en fait, la vie en ce sens-là. Donc peut-être qu'il faut aussi nuancer les interprétations possibles de ce type de passage.
Il faut nuancer, et tout le monde quand même en mémoire cette phrase, à laquelle on ne peut pas réduire, là, je suis absolument d'accord avec vous, la pensée de Nietzsche, mais qui est inoubliable, dans la généalogie de la morale, toujours, au fond de toutes les races aristocratiques, il y a à n'y pas s'y tromper, le fauve, la superbe brute blonde, avide de proie et de victoire. Alors bien sûr, la brute blonde, ça nous évoque une partie de l'histoire du XXe siècle, mais là, voudrais vous faire part de l'objection de Thomas Mann, quand même, qui était un grand lecteur de Nietzsche, un admirateur de Nietzsche, et qui a écrit, c'est pas un philosophe, mais il a écrit sur la philosophie de Nietzsche un texte que, personnellement, je juge extraordinaire. Et justement, il prend une phrase très belle, hein, il prend pas la pire. Et c'est cette phrase qui le choque. Nietzsche dit, il n'y a pas de point fixe en dehors de la vie dont on pourrait réfléchir sur l'existence, aucune instance devant laquelle la vie pourrait avoir honte. Thomas Mann s'offusque. Il dit que, justement, il y a l'esprit. Alors on entre peut-être dans la métaphysique que Nietzsche veut critiquer. Mais l'esprit, dit-il, c'est l'autocritique de la vie. Et la plus simple noblesse de cœur devrait nous imposer de garder et de protéger la chétive petite flamme de la raison et de l'esprit, de la justice, au lieu de prendre le parti de la puissance et de la vie instinctive. Alors, il y a le contexte où écrit Thomas Mann, bien sûr, les années 30, avec ce biocentrisme pour lequel l'esprit jouait le rôle de corrupteur, de désagrégateur et de fossoyeur. C'est ce que Thomas Mann écrit dans un très bel article intitulé « La régénération de la bienséance ». Mais là, on est quand même au cœur aussi de la pensée de Nietzsche, pas dans ce qu'elle a de plus caricatural. Et peut-être que c'est aussi l'objection de Thomas Mann, admirateur de Nietzsche, qui nous retient de nous dire nietzschéen, à quelque sens qu'on prenne ce terme Dorian Astor.
Deux choses. D'abord, sur très rapidement, parce que ce sont des choses qui ont beaucoup été dites, hein, sur les brutes blondes et sur les races aristocratiques. Il faut quand même rappeler une chose très nette, et il faut relire la généalogie de la morale. Nietzsche, précisément, fait une généalogie. C'est-à-dire qu'il fait un type d'histoire longue, et il essaye de faire des typologies dans une réflexion sur l'évolution historique. Et cela, il le fait en particulier contre toute la vision téléologique, finaliste de l'historicisme de l'époque. Ce qui veut dire que on pourrait comparer, alors là, c'est pas très académique de dire ça, mais c'est peut-être frappant, on pourrait comparer ces races aristocratiques, hein, ces barbares venus de l'Est ou du Nord, à une semi-fiction à la Hobbes, hein, à l'état de nature, hein, ou à la Rousseau. C'est-à-dire que pour pouvoir analyser le devenir des types de vie et des types de morale, il faut voir comment ces rapports, comment les systèmes axiologiques se renversent dans leur rapport à la vie. Nietzsche, par ailleurs, est très explicite et très souvent sur le fait que analyser ne veut pas dire louer, et que à aucun moment il n'aspire à rétablir, et ça c'est un des grands malentendus avec la réception national-socialiste plus tard, à aucun moment il n'aspire à une réhabilitation, et encore moins politique concrète, d'une race aristocratique dont il dit ils étaient à peine plus que des animaux, c'était des barbares. Et quand on voit les textes sur la grande politique, on est frappé de voir que Nietzsche, à qui il arrive de louer des systèmes de caste, parle en réalité de caste de l'esprit, et se retrouve en réalité beaucoup plus proche de Platon que de théoriciens nazis, dans la mesure où il rêve quelquefois de philosophes rois, et quelquefois d'une caste de philosophes qui n'aurait rien à faire avec le reste de l'édifice social. Donc voilà, il y a ces deux choses-là. Il faut toujours articuler le travail généalogique et le dessin de ce que Nietzsche appelait la philosophie de l'avenir. Il y a évidemment une articulation forte entre les deux, mais ça n'est pas équivalent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la généalogie, on ne peut pas reporter simplement ce qu'on a analysé comme vie active, vie santé débordante, prédation. On ne peut pas simplement le projeter dans l'avenir comme programme politique ou éthique. La deuxième chose, rapidement, après, je laisserai Céline aussi réagir à ce que vous dites. Bien sûr, comme vous dites, la réaction de Thomas Mann est une réaction en contexte, et c'est le rapport de Thomas Mann à Nietzsche est très beau, parce qu'il est pas, c'est un rapport précisément d'un humaniste d'une époque où il voit le monde d'hier s'effondrer. En réalité, s'il oppose la vie à l'esprit, il ne sort pas d'un idéalisme qui n'a pas lieu d'être chez Nietzsche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, lorsque Nietzsche dit « il n'y a pas de point fixe en dehors de la vie » ou quand il parle de la vie, on ne peut pas, comme le fait Thomas Mann, le rabattre tout de suite sur la force brute, la puissance aveugle et la vie instinctive. La question, c'est qu'un instinct, et ça Nietzsche le dit bien tout le temps, le devenir d'un instinct, c'est de se spiritualiser. C'est-à-dire de devenir un système axiologique, un système de la connaissance, etc. De même que les valeurs s'incorporent et créent des corps adaptés au système axiologique que nous avons, les instincts se spiritualisent. Donc, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de point fixe en dehors de la vie et que la vie, il n'y a aucune instance face à laquelle la vie doive avoir honte, alors là, si je devais être Nietzschean, moi je signe tout de suite. Évidemment, l'esprit ne peut pas, dans cette phrase-là, par exemple, être opposé à la vie. Bien sûr, l'esprit est sans doute ce devant quoi la vie instinctive peut avoir honte. Ça, c'est le processus d'éducation, ou que Nietzsche appellerait de dressage, précisément.
D'élevage.
Ou d'élevage, exactement. Mais si l'on considère que l'esprit est comme la pointe la plus affinée, dans le meilleur des cas, parce que parfois, il n'est qu'un instrument grossier de la vie, précisément. Si on ne travaille pas à partir d'un dualisme corps-esprit, l'objection de Thomas Mann n'a plus vraiment lieu d'être.
Oui, c'est vrai que considéré, si j'ose dire, à distance temporelle, il est presque étonnant pour moi, en fait, spontanément, qu'on trouve la citation, cette citation de Nietzsche précisément choquante, parce que ce que vise la citation en question, c'est effectivement un type de problème récurrent chez Nietzsche, à savoir cette idée que, disons pour faire court, que la culture occidentale tend à faire honte au vivant, alors à la vie sensible, à l'homme considéré en tant que totalité et que vivant plutôt que pur esprit, comme on l'a longtemps pensé. De sorte que le refus, effectivement, de trouver ce point fixe, cet absolu à l'aune duquel on pourrait ou devrait juger la vie, dans cette citation, l'idée est clairement, en quelque sorte, de réconcilier l'homme avec ses aspects de lui-même, qu'il en est venu parfois à mépriser, la corporéité, la sensibilité, les désirs, etc. Il n'y a pas, effectivement, dans ce passage précis, de brutalité ou qui inciterait à, la, je sais pas, à l'idée d'une vie sauvage, brutale et dénuée de toute forme ou de toute spiritualité, l'esprit n'étant, effectivement, Dorian l'a rappelé, qu'un aspect du corps et de la vie elle-même et qui, quelque chose qui est conditionné toujours nécessairement par la vie même, de sorte qu'on ne peut pas les opposer ni même les distinguer d'ailleurs. Pour revenir ensuite sur la question de l'aristocratie, il est vrai que chez Nietzsche, aristocratie ne désigne pas prioritairement, en tout cas pas uniquement, un régime politique, une organisation politique. Ça désigne un type d'homme, un certain type du coup de constitution, alors on va dire psychophysiologique pour Nietzsche, qui se définit entre autres par cette notion importante qui est celle du pathos de la distance. Et Nietzsche dit dans plusieurs textes, entre autres dans Par delà bien et mal, que ce pathos de la distance, c'est le sentiment du rang, le sentiment des distances et des différences. L'un des intérêts que cette notion a pour lui est qu'elle s'oppose à une volonté d'uniformiser, de considérer de façon uniforme, tout à fait indifférencié, l'ensemble des individus. Donc ça touche aussi à cette question qui a été frôlée, croisée tout à l'heure, à la question de l'individualité et de l'individualisation de chacun.
Justement, pour aller dans votre sens, je voudrais citer cette maxime extraordinaire de Par-delà le bien et le mal, la réconciliation de Nietzsche avec certains aspects de la vie qui avaient été disqualifiés, déconsidérés. Le christianisme a fait boire du poison à Eros, il n'en est pas mort, mais il est devenu vicieux. Quand même une phrase absolument extraordinaire. Mais là, nous allons aborder le cœur de la pensée de Nietzsche et la raison pour laquelle sa lecture me semble incontournable, que l'on soit nietzschéen ou non. J'avais été abordé par les auteurs de pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens. Il m'avait demandé de participer à ce livre. Je ne me sentais pas assez philosophe pour le faire. Et surtout, je ne me voyais pas me ranger dans une case ou dans une autre, parce que je crois que nous sommes redevables à Nietzsche, dans sa généalogie de morale, de la morale de la critique du ressentiment. Vous avez parlé, Céline Denat, du pathos de la distance. Nietzsche dit « Les hommes ne haïssent rien de plus que l'apparition soudaine d'une distance, là où ils s'imaginaient avoir des droits égaux. » Et tout d'un coup, il nous montre la vengeance, l'esprit de vengeance, à l'œuvre dans la morale, à l'œuvre dans nos valeurs les plus chères. Des tarentules, dit-il dans Ainsi parlait Zarathoustra, avides de vengeance secrète. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un peu, justement, à cette généalogie de la morale, à travers le concept de ressentiment, mot qui existe chez Nietzsche en français. Parce qu'il l'avait découvert dans une traduction, je crois, des Carnets du souterrain de Dostoïevski. Dorian Astor.
Le ressentiment, en effet, c'est sans doute un des concepts qui peut nous être le plus utile, j'allais dire, hein, à un certain nombre de démarches critiques. Je voudrais dire juste entre parenthèses que ce concept de ressentiment, ce concept nietzschéen de ressentiment, a presque eu trop bonne fortune. Il m'est arrivé même personnellement s'il m'arrivait de critiquer quelque chose, de ne pas être d'accord avec quelque chose, je me suis retrouvé quelquefois accusé de, ah, mais c'est le ressentiment qui parle en toi. C'est-à-dire que le ressentiment nous ferme la bouche aussi. Là, je parle d'aujourd'hui et des gens qui veulent toujours, voilà, une espèce de surenchère de nietzschéisme. Alors là, ce sont les nietzschéens que je critique. C'est-à-dire que les nietzschéens, à bon compte, j'allais dire, ou précisément, il y a une espèce de paranoïa du ressentiment, tout est ressentiment. Bon, voilà, ça c'était une parenthèse. Sur cette affaire de ressentiment, ce qui me semble extrêmement important, c'est que, bon, sans refaire toute l'histoire du concept, ni même de la généalogie de la morale. Ce que je trouve extrêmement intéressant et qui est un instrument d'analyse, j'allais dire, je ne suis pas très psychologisant, mais j'allais dire même pour nous-mêmes, c'est qu'on comprend le développement, hein, le passage du ressentiment, l'esprit de vengeance, le ressentiment, le passage à la mauvaise conscience, puis aux idéaux ascétiques, comme dans la génie de la morale. On ne comprend cette chose-là que si l'on se rappelle que Nietzsche est extrêmement attentif aux situations où une force ou une puissance est empêchée de s'effectuer, est empêchée de se décharger. Il se trouve que Nietzsche travaille beaucoup par ailleurs sur la cruauté, c'est-à-dire au fond, encore une fois, il ne la réhabilite pas, mais il en fait un concept philosophique de telle sorte qu'on puisse comprendre la dynamique psychophysiologique, comme disait Céline, des pulsions. C'est-à-dire qu'une force ou une puissance atteinte dans son intégrité réagit et a tendance à réagir au-delà de la simple compensation, c'est-à-dire de la simple récupération de ce qui lui a été ôté. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toujours un excès de la vengeance sur l'atteinte. C'est-à-dire que ce que Nietzsche déstabilise, c'est la notion de compensation. Et il se rend compte que, à l'origine de la justice, il n'y a pas simplement l'idée de compenser un dommage, mais de le surcompenser, de produire un excès de souffrance en retour, ce qui est la définition de la cruauté. Et il se trouve que lorsque une force, au sens biologique ou au sens psychologique ou culturel, lorsqu'une force est empêchée de s'effectuer ou de se contre-effectuer, eh bien, elle va spiritualiser sa vengeance. Et de son impuissance, elle va faire une force qui est une force d'accusation.
Céline Denard.
Oui, on peut rappeler aussi, juste à titre de complément, que dans la généalogie de la morale, Nietzsche dit que ceux qui créent par ressentiment, ce sont ceux qui ne savent créer des valeurs, par exemple, qu'en s'opposant à quelque chose qui préexiste, qui les précède. Avec cette idée sous-jacente que celui qui souffre, si j'ose dire, de cet affect du ressentiment, ne s'est créé que contre quelque chose d'autre, et que dans le même temps, cela signifie qu'il continue de dépendre de cela même à quoi il s'oppose. Ce par opposition avec l'idée d'une création alors véritablement active, on va dire, ne relevant pas du seul ressentiment, qui implique effectivement de créer quelque chose d'authentiquement nouveau, éventuellement à partir d'une réflexion sur ce qui a été, ce qui a existé, etc. Mais non pas simplement contre, de manière strictement oppositionnelle, en fait. Ce qui est, aux yeux de Nietzsche, effectivement, la marque d'un certain degré de faiblesse. Si on transfère la chose dans la vie courante, quotidienne, si j'ose dire, c'est-à-dire effectivement ce type d'attitude qui consiste à ne faire de choix que contre ceux qui ont sur nous de l'autorité, que contre ceux qui nous entourent, ça signifie en fait que, d'une part, qu'on a des choix extrêmement restreints, on est déjà conditionné par ce à quoi on s'oppose, et qu'il y a toute une série de possibilités nouvelles qu'on est manifestement incapable d'envisager, parce que tout ce qu'on sait faire, c'est contredire, s'opposer à, en fait. Et ça, aux yeux de Nietzsche, c'est pas vraiment une position satisfaisante.
En même temps, j'en reste à cette question du ressentiment, parce que on a l'impression que ce que Nietzsche tente d'imaginer, même s'il n'utilise pas forcément le terme, c'est une éthique par-delà le ressentiment. Il voit à l'œuvre le sentiment d'égalité dans la démocratie. Il a des mots très durs contre l'esprit démocratique. Très durs, il ne faut pas l'oublier. Il voit une égalité inspirée par la jalousie qui voudrait rabattre tout ce qui élève. Et c'est là, c'est prédicateur de l'égalité, vous êtes pour moi des tarentules avides de vengeance secrète. Il faut que l'homme soit sauvé de la vengeance. Cela est pour moi le pont qui mène aux plus grands espoirs. C'est un arc-en-ciel après de longs orages. Imaginez, en quelque sorte, une justice non vindicative. Cette idée d'ailleurs très intéressante et elle peut recevoir des échos tout à fait contemporains, mais je n'entrerai pas dans ce débat. Simplement, oui, je trouve que c'est le cœur de la pensée de Nietzsche, en tout cas c'est ce qui dans la pensée de Nietzsche me parle le plus. Dans le livre que vous critiquez beaucoup, Dorian Astor, « Pourquoi nous ne sommes pas Nietzschéens », il y a un article de Philippe Reynaud intitulé « Nietzsche éducateur », une manière de reprendre le Schopenhauer éducateur des considérations inactuelles. Et il dit « Nietzsche peut être un très bon éducateur pour la démocratie », qu'il critique férocement, parce que précisément, il nous force à imaginer une démocratie délivrée du ressentiment, un sentiment d'égalité délivré du ressentiment. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est jouable encore? Et ce serait cela peut-être une bonne lecture de Nietzsche aujourd'hui, Dorian Astor.
Oui, bien sûr. Alors, Nietzsche, éducateur pour la démocratie, enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre de 2014, Nietzsche, la détresse du présent. Alors, est-ce que c'est possible? Ça me paraît une exigence. Le fait est que envisager une démocratie dans laquelle les distances, l'individualité, l'invention, la nouveauté, un rapport non oppositionnel, c'est-à-dire en réalité une autonomie, voilà, puisse avoir lieu, c'est évidemment un horizon. On voit bien Nietzsche souvent travailler dans la critique de la démocratie à la critique en fait des fondements libéraux du libéralisme philosophique sur l'égalité, la dignité, le droit à se conserver, le droit naturel, etc. Toutes ces questions qui sont très travaillées au XVIIe, XVIIIe siècle, et où l'on voit dans son analyse que cette égalisation et cette universalisation du type homme s'est faite au prix fort. Bon. On voit par ailleurs dans « Humain, trop humain », qui est quand même un texte où il me semble que Nietzsche travaille de manière particulièrement nuancée, y compris sa critique de la démocratie, des droits de l'homme, etc. La critique se durcit avec le temps, mais à l'époque de « Humain, trop humain », on voit quand même des choses extrêmement étonnantes, y compris, j'allais dire, révolutionnaire, hein, bon, avec beaucoup de guillemets. Alors, la question, c'est que si l'on analyse les dysfonctionnements démocratiques à partir, c'est ça notre tâche. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain ou de rêver d'une société de caste. Enfin, moi, je suis Nietzschéen et de gauche. Je ne suis pas Nietzschéen de gauche. Je suis Nietzschéen et de gauche. On en reparlera peut-être, mais il me semble que là, alors là, pour le coup. Qu'est-ce que ça veut dire être Nietzschéen? C'est un certain type d'approche critique et généalogique qui fait que, il me semble, que les dysfonctionnements démocratiques sont à analyser et à dénoncer suivant des méthodes nietzschéennes absolument efficaces et urgentes aujourd'hui.
Ça, c'est urgente aujourd'hui. Là, voilà. Céline Denat, et j'aurais une question précise à vous poser.
Oui,
Céline
alors, Denat. Moi, ma lecture, qui peut certainement être discutée, c'est que ce que Nietzsche critique fondamentalement sous le nom de démocratie, c'est un certain type de valeur, un certain type de mode de pensée, ce qu'il désigne assez souvent dans ses textes sous le nom d'idéaux ou d'idées démocratiques, ce qu'il appelle aussi les idées modernes. Ce qui est en jeu assez souvent dans la critique de la démocratie, ça n'est pas un certain type de constitution et d'organisation politique. Ce sont des manières, et plus précisément encore des réflexes de pensée qui sont ancrés dans la conscience moderne. Parmi les choses dans ce contexte que Nietzsche critique, il y a effectivement ce problème de l'universalisation du type homme, c'est-à-dire cette tendance à vouloir définir l'homme sur un mode unique et à vouloir dire que l'homme, en général, doit être tel et tel. Donc à imposer un modèle général à tous, pour une part. Ce qui produit une uniformisation, dit Nietzsche, et par là même, quelque chose comme une médiocrisation, oui. Dit la traduction de Patrick Welsing, parce que, tout simplement, l'absence de différence... l'absence de hiérarchie, éventuellement, même entre les individus, fait que tout le monde veut ressembler à tout le monde et ne vise jamais quelque chose de plus haut que soi-même. D'où, à l'inverse, l'exigence aristocratique qui est entendue dans ce contexte également. Par conséquent, bizarrement, on pourrait très bien envisager de critiquer avec Nietzsche certains aspects de la vie démocratique, certaines pratiques de la vie démocratique, dans le cadre du système éducatif, par exemple, ce genre de choses, sans pour autant remettre en cause le régime politique en tant que tel.
Oui, nous sommes d'accord sur ce point, mais là, je voudrais m'interroger avec vous sur ce paradoxe. Vous dites, Dorian Astor, vous êtes Nietzschéen et de gauche, vous faites la distinction, mais aujourd'hui, la plupart des Nietzschéens avoués, si j'ose dire, sont de gauche et d'une gauche souvent radicale. Et là, je vois quand même un paradoxe. Je voudrais vous citer une phrase de Simon Less qui me semble justement intégrer la critique nietzschéenne sans pour autant, comme vous le dites, jeter le bébé démocratique avec l'eau du bain. Simon Less, dans un discours sur l'université, dit « La démocratie est le seul système politique acceptable, mais précisément, elle n'a d'application que dans son ordre à elle. Hors de son domaine propre, elle est synonyme de mort. Car la vérité n'est pas démocratique, ni l'intelligence, ni la beauté, ni l'amour. Une éducation vraiment démocratique est une éducation capable de défendre et de maintenir la démocratie en politique, mais dans son ordre à elle, qui est celui de la culture, elle est implacablement aristocratique et élitiste. Donc, il faut sauver la hiérarchie à l'intérieur de la démocratie. Or, la démocratie radicale, la pensée révolutionnaire, c'est au contraire la volonté, justement, d'en finir avec toutes les hiérarchies. C'est une égalité généralisée. Vous citez dans votre livre Nietzsche, la détresse du présent, vous citez Deleuze, vous citez aussi Rancière. Or, Rancière, dans La haine de la démocratie, nous dit que si la démocratie veut aller jusqu'au bout d'elle-même, il faut qu'elle réintroduise ou qu'elle repense le tirage au sort. Parce que le vote, c'est une manière de dire qu'il y a des gens qui seraient meilleurs que d'autres, qui auraient plus que d'autres des titres à gouverner. C'est déjà trop hiérarchique, trop aristocratique. La représentation, c'est un résidu d'aristocratie qu'il faudrait en quelque sorte supprimer pour que la démocratie aille jusqu'au bout d'elle-même. Là, nous sommes vraiment aux antipodes de Nietzsche. Et je trouve que, justement, cette constitution d'un nietzschéisme de gauche, voire d'extrême gauche, est très surprenante, paradoxale et à mes yeux contradictoire. Dorian Astor.
Alors oui, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je vais essayer de pas oublier toutes les réponses que je veux vous faire. Je vais commencer par la fin. Cette histoire de tirage au sort, qui est de modèle grec, hein, faut le rappeler. Il est possible. Alors chez les Grecs, il était possible parce que les Grecs tiraient au sort entre pairs, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'exclus, hein, des citoyens libres. Donc moi, je n'ai aucun moyen de savoir ce qui dans des grandes nations, grandes au sens populeuses, enfin avec beaucoup de monde, ce qui permet de nous considérer tous comme des pairs. C'est-à-dire reconnaissance mutuelle d'une puissance à peu près égale, lit Nietzsche dans Aurore de mémoire. À ce moment-là, le tirage au sort est une excellente manière de neutraliser cette avidité de pouvoir. Et là, moi je serais assez platonicien en disant qu'il faut donner le pouvoir à ceux qui n'en veulent pas. Hein. On voit bien que ceux qui en veulent le corrompent presque immédiatement. Alors ensuite, moi ce qui m'intéresse chez Rancière, qui n'est pas, que je sache, nietzschéen, c'est ce concept de n'importe qui. Le n'importe qui est l'individu, le citoyen démocratique. Ça peut être n'importe qui. Si on regarde chez Nietzsche, lorsqu'il nous parle d'aristocratie de l'esprit, qui cite-t-il ? Des artistes, des hommes politiques, des philosophes, des gens qui, pardon, mais se sont tous faits eux-mêmes.
Oui, mais en même temps, il maintient l'idée d'une hiérarchie, justement.
Bien sûr. Alors, je vais prendre un exemple.
C'est très important. C'est une hiérarchie, vous avez raison. C'est pas la hiérarchie du sang. Donc, l'aristocratie, c'est pas forcément celle du lignage chez Nietzsche. Vous l'avez dit.
Absolument.
Mais qu'un sentiment aristocratique, qu'une réalité aristocratique puisse exister, c'est capital pour Nietzsche.
Oui. Alors, voyons, il faut rappeler deux choses. D'abord, c'est que quand on voit au 18e et même au 19e avec Tocqueville, il y a dans les défenseurs du libéralisme un très grand malaise avec la question de l'égalitarisme. C'est-à-dire que la démocratie classique, libérale, a mis du temps à intégrer le concept d'égalitarisme dans son système. Je voudrais prendre un exemple que vraiment, j'insiste, que je prends vraiment avec des pincettes, parce que Céline parlait du système éducatif, par exemple. Il y a de très beaux textes du jeune Nietzsche. Oui. Les 5 conférences sur l'avenir des établissements d'enseignement. Je voudrais faire une analogie qui vaut vraiment ce qu'elle vaut et qui est extrêmement... je reste prudent. L'idéal qui n'a pas vraiment fonctionné comme ça aurait dû, en tout cas qui s'est corrompu peu à peu, mais l'idéal très Troisième République de la méritocratie. Entre guillemets et avec des pincettes, avec toutes les nuances et les objections que vous voudrez. Comment précisément un système, idéalement un système démocratique et égalitaire, permet de rétablir des hiérarchies internes, non pas imposées comme des états de fait, à partir de la singularité, de la créativité, des valeurs d'individus qui rétablissent des hiérarchies à l'intérieur d'une société démocratique. De toute façon, toute société, la plus démocratique qu'elle soit, fonctionne avec des hiérarchies, ne serait-ce que contractuel. La question démocratique, c'est le contrat dans la hiérarchie. C'est-à-dire que le rapport inégalitaire fasse l'objet d'un contrat qui soit à tout moment révocable. Lorsque j'accepte l'autorité d'un professeur, lorsque j'accepte l'autorité d'un directeur ou que sais-je, ce qui est démocratique, c'est d'accepter que cette différence hiérarchique fonctionne dans un but qui est autre que l'exercice du pouvoir et que ce rapport de pouvoir ne devienne pas un état de fait. Et c'est là que je finirai là-dessus. Ce qui me semble extrêmement nietzschéen et de gauche, c'est... alors je ne parle pas pour... tous les Nietzschéens de gauche, je parle pour moi et quelques autres. Ce qui me semble le plus important, c'est de... et ça me semble l'objet même, la cible contre le conservatisme ou la réaction, c'est-à-dire l'idolâtrie des états de fait. Nietzsche est très dur à l'égard des faits. Du petit fatalisme, le fatalisme des faits. Si le travail d'une culture doit être celui d'interprétation de ce qui, de quelle valeur, de quel type de valeur, de corps, d'esprit, de connaissances sont à l'œuvre dans les états de fait, à ce moment-là, le travail critique et généalogique devient, sans qu'on puisse l'arrêter, acquiert une dimension révolutionnaire. Contre l'état de fait.
Voilà. Céline Denard.
Oui, alors je vais répondre brièvement. D'une part, en rappelant de façon volontairement un peu polémique le type de choses que Nietzsche a pu formuler à propos des questions politiques, des questions de parti, à savoir un refus explicite de la part de Nietzsche de se préoccuper, dit-il, des questions politiques. Dans sa correspondance, il écrit par exemple, en résumé, je ne suis pas un zoonpolitikon, je ne suis pas un animal politique, et cela est l'objet de ma fierté, en quelque sorte. Et il écrit par ailleurs que l'un des 10 commandements qui s'imposent à l'esprit libre est le suivant, tu ne feras pas de politique. Bien. Polémique peut-être un peu brutale. Mais pour revenir sur la question de la hiérarchie, il me semble qu'il faut se rappeler de quelque chose d'important qu'on oublie peut-être souvent, moi-même compris en lisant les écrits Nietzsche, c'est que la hiérarchie, alors premièrement, n'a pas à être pensée sur le mode de bien ou maltraiter certains individus plus que d'autres, mais l'idée c'est de traiter différemment en fonction éventuellement de différences individuelles. Quand on parlait des questions d'éducation, ça peut vouloir signifier cela, de ne pas traiter tous les individus qu'on a en face de soi de la même manière parce qu'ils ne sont pas identiques. Et surtout, par ailleurs, point peut-être encore plus important, la hiérarchie n'a pas à être pensée dans un contexte nietzschéen de façon fixiste. La visée de la hiérarchie, c'est précisément de permettre à chaque individu de se soumettre provisoirement à une autorité, à une puissance supérieure, pour mieux pouvoir la dépasser.
Oui, c'est vrai. En même temps, Nietzsche s'en prend au prédicateur de l'égalité, auquel l'idée d'une hiérarchie entre les hommes, entre les œuvres, elle-même, est intolérable. Et là, je vois aussi poindre un paradoxe, parce que Nietzsche est un penseur très à la mode, et comme l'a montré il y a déjà quelque temps Alan Bloom, dans les campus américains, où on utilise ce qu'on appelle le perspectivisme nietzschéen. pour il s'est opposé aux idées traditionnelles sur la connaissance objective, la vérité, la morale universelle et absolue, et montrer qu'en fait, il y avait des perspectives et des interprétations. D'où cette phrase célèbre, il n'y a pas de fait, seulement des interprétations, seulement d'innombrables perspectives. Or, je vois qu'on se sert de ce perspectivisme pour alimenter, si vous voulez, l'idée du relativisme culturel. Puisqu'il y a des perspectives, puisqu'il y a des interprétations, au nom de quoi ferions-nous une hiérarchie entre les unes et les autres? Et c'est ce qui nourrit le concept omniprésent aujourd'hui de diversité. Diversité des œuvres, diversité des pratiques, et même l'idée d'art mineur aujourd'hui n'est plus recevable. J'entendais l'autre jour une vieille émission où Jacques Brel, pas n'importe qui, disait qu'il n'était pas musicien, qu'il faisait de la chansonnette. Aucun rappeur ne dira aujourd'hui qu'il fait de la chansonnette.
Gainsbourg disait la même chose.
Voilà, ouais. Gainsbourg disait la même chose. Bon. Ouais. Donc, et si vous voulez, c'est comme si le ressentiment s'emparait de la pensée de Nietzsche pour s'alimenter lui-même, pour se justifier lui-même et pour persécuter toute idée de hiérarchie entre les êtres ou entre les œuvres. N'y a-t-il pas là un paradoxe qui mérite d'être médité, Dorian Astor ?
Oui, alors, moi qui travaille beaucoup actuellement sur le perspectivisme, c'est évidemment la plaie, la peste à laquelle on a affaire. Et cette question-là ne concerne pas simplement Nietzsche, mais d'autres penseurs perspectivistes. La question du relativisme et du « tout se vaut », qui est chez Nietzsche quasiment la définition du nihilisme.
Oui.
Le perspectivisme chez Nietzsche, qui est une longue affaire, je pourrais pas résumer ça rapidement, Céline est peut-être plus pédagogue que moi pour ça. En tout cas, il me semble que le perspectivisme, ou je dirais la traversée, il y a deux choses. Il y a une critique de la connaissance chez Nietzsche qui dit que, précisément parce qu'il n'y a pas de point fixe en dehors de la vie, hein, la phrase que citait Thomas Mann, on n'atteint pas l'en-soi des choses et que toute connaissance est une connaissance en situation, en relation, forcément. Bon. Relation précisément de prédation ou d'appropriation, etc. Donc à partir de là, Nietzsche va jusqu'à dire dans Le Gai Savoir, j'oublie toujours les numéros d'aphorisme, mais que nous pourrons un jour mourir de cette bêtise perspectiviste. Le perspectivisme nous rend bêtes parce que nos vues, nos perspectives sont limitées et nous les prenons pour universelles. Il y a, me semble-t-il, un perspectivisme exigé par Nietzsche dans sa théorie et de la connaissance et surtout de l'éthique, que moi j'appellerais une espèce de méta-perspectivisme, c'est-à-dire la multiplication des perspectives, passer par le plus de perspectives possibles. Là, c'est presque leibnizien, c'est-à-dire trouver pour chaque cas le bon point de vue et trouver une grande mobilité. Passer à travers 500 convictions et les avoir derrière soi, dit Nietzsche. Se faire le plus Dieu possible, les yeux, etc. Donc, il y a là une véritable méthodologie, une grande souplesse critique qui est l'inverse du relativisme qui en fait immobilise chaque perspective, la sclérose et la rend simplement bête voire brutale. Sur la diversité, en un mot, et je finis là-dessus, sur la diversité, il est important, enfin le terme employé aujourd'hui de diversité, hein, comme vous le citez, est vraiment un fourre-tout. Il me semble que il faut travailler de manière très exigeante à cette question qui est, que moi j'appellerais, après certains philosophes, la question des multiplicités. Voilà. Généralement, les penseurs des multiplicités, de Leibniz à Deleuze, sont aussi des penseurs perspectivistes. Bon. La question des multiplicités, c'est que si l'on essaye de comprendre comment, dans quel rapport et dans quel déplacement de rapport perpétuel des singularités multiples se trouve, à ce moment-là, la nécessaire remise en mouvement des relations entre singularités ou entre individus ou entre valeurs, cette mise en mouvement est absolument nécessaire. Le problème de la diversité restera un dogmatisme si chaque diversité se fixe. Ce qui est divers, c'est nous-mêmes et chaque chose. C'est-à-dire que ce dont on a besoin, c'est d'une remise en circulation, d'une espèce de flux comme ça, des multiplicités, avec, à mon avis, des prolongements politiques évidents. Mais voilà, la diversité ne protège pas des précarés, au contraire.
Oui, pour reprendre sur l'idée que vous évoquiez, il me semble que non seulement actuellement, mais que depuis assez longtemps, cette idée que Nietzsche serait relativiste, parce qu'il dit qu'il n'y a que des interprétations, c'est une idée récurrente depuis fort longtemps, et c'est sans doute l'un des contresens majeurs qui sont commis à son égard. Donc certes, pour Nietzsche, il n'y a jamais que de l'interprétation. Quand nous pensons, quand nous prétendons connaître objectivement, quand nous parlons de faits, il y a déjà de l'interprétation. Quand je regarde cette salle, il y a déjà un processus interprétatif, et ce que j'appelle réalité, c'est déjà interprété, en fait.
Oui, mais je veux dire, c'est une idée qui est très répandue, ce relativisme, mais qu'on fait jouer contre cette partie de la pensée de Nietzsche qui est inacceptable à l'esprit démocratique de notre temps, c'est-à-dire l'aristocratisme, le sens de la hiérarchie.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire on fait jouer Nietzsche contre un autre, oublier cette part de sa pensée devenue totalement inacceptable, alors même que vous l'avez dit tous les deux, l'aristocratie dont il parle n'est pas une aristocratie de sang. Simplement, Nietzsche est l'homme qui dit le but d'une civilisation, c'est de produire de grandes œuvres.
Mais précisément, il y a
place quelque chose pour le grand. Or, dans la diversité, l'idée de diversité est employée précisément pour détruire même toute possibilité de la grandeur.
Oui, mais on est dans ce cas, dans un cas typique d'usage de Nietzsche qui est, je dirais brutalement, malhonnête. C'est-à-dire aller prendre un élément chez Nietzsche pour mieux nier et ne pas tenir compte de ce qu'il a très clairement écrit par ailleurs, pour soutenir les idéaux que Nietzsche souhaitait critiquer. Enfin, je veux dire, ça revient à avoir une vision et une lecture extrêmement partielle de l'auteur. Ça revient à faire quelque chose que Dorian décrit très, très justement dans un article récent comme ne pas se rendre digne de la lecture de cet auteur. Je peux prendre n'importe quel auteur de philosophie, isoler un élément et le faire jouer comme bon me semble. Ça ne me semble ni rigoureux, ni philosophique, ni très pertinent, effectivement. Les gens qui font cet usage de Nietzsche, à mon avis, ne sont pas nietzschéens, en aucun sens, et surtout, au sens strict, ne font pas vraiment de philosophie.
Mais on a l'impression aussi, Dorian Astor, et ce sera ma dernière question, que vous-même, vous êtes mal à l'aise avec le concept nietzschéen de hiérarchie, puisque si vous abandonnez le concept de diversité, c'est au profit de celui de multiplicité, mais on a l'impression que tout ça, ça dilue cette hiérarchie avec dont on ne sait plus très bien quoi faire, dont la sensibilité démocratique de notre temps, ou même hyper démocratique de notre temps, ne sait plus très bien quoi faire.
Oui, alors ça, que la lecture de Nietzsche que ma lecture politique de Nietzsche me mette mal à l'aise, ça fait longtemps, et c'est pour ça que j'ai écrit La détresse du présent, avec le terme détresse qui n'est pas simplement, qui est aussi la mienne. Hein. La question, c'est qu'il s'agit pas de, diluer, il s'agit de savoir aujourd'hui où et comment on peut faire jouer un certain nombre d'exigences. Il y a un certain nombre de domaines et de manières de penser où il me semble que la distance, qu'un certain nombre de hiérarchies. De toute façon, nous vivons dans l'hiérarchie, nous ne vivons pas dans l'égalitarisme, nous ne vivons pas dans la diversité. La question, c'est de savoir dans lesquelles nous vivons. Voilà. Les hiérarchies actuelles doivent être renversées, je le crois, et les grandeurs actuelles, les grandeurs de fait, nous ne vivons pas une époque sans grandeur, nous vivons avec une époque de grandeurs établies qui doivent elles-mêmes être renversées au profit d'essais, fazours, de tentatives de penser différemment la grandeur, la diversité, la hiérarchie, la distance, l'autre, etc.
Très bien. Merci de cette conclusion, Dorian Astor. Et je voudrais terminer cette émission avec une image. On sait qu'en 1889, Nietzsche a sombré dans la démence. Dans votre biographie de Nietzsche, vous dites qu'on n'est pas sûr de pouvoir imputer cette démence à la syphilis, comme on l'a beaucoup dit. Toujours est-il qu'il a vécu de 1889 à 1900, dans un très grand silence. Et je voudrais lire simplement ce que dit Daniel Halévy dans sa biographie, parce que c'est très émouvant. Il n'est pas impossible qu'enfin délivré du frénétique esprit qu'il avait torturé, Nietzsche ait connu le bonheur, étendu sur une chaise longue, et si parfaitement, si longuement immobile, qu'on vit plus d'une fois les oiseaux habitués se poser sur son corps, il vivait absorbé par la contemplation des cieux, des horizons, par les lentes descentes du soleil. Merci encore à tous deux.
Merci.
Alors, je rappelle, Céline Denat, que vous avez publié Nietzsche, généalogie d'une pensée chez Belin. Votre dernier livre, Dorian Astor, Deviens ce que tu es, pour une vie philosophique, aux éditions Autrement. Le dictionnaire Nietzsche, que vous avez dirigé, va paraître incessamment chez Lafon. Et les autres références bibliographiques sont disponibles sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et réécoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La vie intellectuelle en France, état des lieux ». Mes invités sont Christophe Charles et André Perrin. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. À 10h, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet. France Culture accompagne tout le week-end le printemps des poètes et vous propose des lectures de poètes africains lues par Jacques Bonafé.